Voilà, la fête est finie. On a passé plusieurs semaines à faire la fête, tant de l'Avent pour se préparer à la naissance de Jésus, Noël pour célébrer ce bébé qui naît et qui est Dieu parmi nous, tant de l'Épiphanie où on se rappelle les mages qui sont venus du lointain Orient pour adorer en Jésus le roi des cieux. Tant de l'Avent, tant de Noël, tant d'Épiphanie, puis c'est fini. Voilà, nous reprenons maintenant le quotidien de nos vies, le courant de ce que nous vivons, ce que nous traversons, ce que nous éprouvons, parfois ce que nous avons comme poids dans la vie, parfois ce qui nous pèse ou nous préoccupe. Et nous voilà dans ce quotidien, cette réalité parfois difficile. Et ce soir, je pense en particulier à ceux qui ont une réalité très très difficile dans notre monde. Je pense en particulier à tous ceux qui sont sur les chemins d'exil à travers notre planète et qui en ce moment même sont peut-être dans des endroits où ils se disent comment partir de là, où nous sommes persécutés, où nous ne pouvons pas vivre, pas survivre, qui sont peut-être sur des chemins d'exil dans le froid, dans la difficulté de vivre, dans les épreuves, dans la peur, qui sont peut-être arrivés parmi nous, mais qui n'ont pas encore la certitude de pouvoir vivre pleinement ici. Voilà, je pense à toutes ces personnes, ces millions de personnes sur notre planète, qui sont sur ce dur chemin d'exil, simplement parce qu'ils sont nés ailleurs que nous. Ça pourrait être nous-mêmes, si nous étions nés ailleurs que là où nous sommes nés. Et le destin qu'ils ont, la vie qu'ils ont, les épreuves qu'ils traversent ne peuvent pas ne pas nous toucher. Cela ne peut pas ne pas nous toucher si nous sommes tout simplement avec un cœur humain, de savoir que d'autres humains souffrent, si nous ne sommes pas encore complètement anesthésiés par les statistiques ou par des idéologies qui poussent à avoir peur des autres. Enfin, si nous avons encore un peu de sentiments humains, nous sommes forcément touchés par des frères et des sœurs qui sont frères et sœurs en humanité, mais qui traversent tant d'épreuves et qui pourraient être nous-mêmes ou nos enfants. En tant que protestants, nous sommes aussi particulièrement touchés par les gens qui sont sur les routes d'exil, parce qu'au cœur de notre histoire, protestants français, il y a eu des périodes d'exil. Au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, il y a à peu près 200 000 Huguenots qui ont dû fuir le royaume de France pour échapper à la persécution. Il y avait à peu près 20 millions de Français à l'époque, hein. C'est comme si aujourd'hui il y avait 650 000 protestants qui fuyaient. C'est la même chose que ce qui se vit autrement dans d'autres pays de ce monde. Cela ne peut pas nous laisser indifférents. Et puis plus profondément, nous tous qui sommes chrétiens, qui sommes des lecteurs de la Bible, qui sommes sensibles à tout ce que cette écriture qui est l'axe de notre foi nous propose de vivre, eh bien nous ne pouvons pas ne pas constater que toute l'écriture est une histoire d'exil, que tout au long des générations qui se succèdent dans l'écriture, il y a des gens qui sont obligés de partir et d'aller ailleurs. Dès le début quasiment, Abraham, le grand patriarche, Abraham qui, alors qu'il a voyagé avec sa famille et puis qu'à l'appel de Dieu il se trouve en terre de Canaan, se trouve un moment où il y a une grande famine en terre de Canaan. Alors il est obligé d'aller se réfugier en Égypte. Et puis Jacob, son petit-fils, va être obligé de vivre 14 ans en exil auprès de Laban, qui va l'obliger à vivre là pour travailler quasiment comme un esclave afin de pouvoir épouser ses filles. Et puis quelques siècles, donc juste une génération après, pardon, Joseph, un des fils de Jacob, Joseph va être vendu par ses frères à des marchands d'esclaves. Il va être emmené en Égypte, et là, en Égypte, il va servir comme esclave. Il va à la fois réussir, et puis il va en même temps être mis en prison. Enfin, il va avoir une vie très très difficile, et puis finalement, toute sa famille va venir le rejoindre en Égypte. Des générations vont passer, et tous ses descendants, entre-temps, sont devenus esclaves en Égypte. Alors surgit Moïse, et Moïse, c'est aussi quelqu'un qui va devoir vivre en exil, puisque heurté par la souffrance d'un de ses frères hébreux, il va tuer un Égyptien et être obligé de partir au pays de Madian pendant de nombreuses années pour avoir la vie sauve. Et puis, voilà, le temps passe, il y aurait encore d'autres épisodes, d'autres histoires. Je cite simplement David, le grand roi David, qui avant d'être roi, est lui-même quelqu'un qui doit partir en exil parce que le roi Saül se méfie de lui, il voit en lui le rival, il veut sa mort, alors David doit s'enfuir et vivre comme un exilé. Et puis un peu plus tard encore, la grande période qui s'appelle l'exil, qui est le drame absolu pour les Hébreux, quand au VIe siècle avant notre ère, ils sont emportés par le roi de Babylone, Nabucodonosor, pour un demi-siècle d'exil dans la lointaine Babylone, à 1500 km de là où ils habitent. Voilà, tout l'Ancien Testament est fait d'une série de grands personnages, tous les noms que je vous ai donnés, vous les connaissez, qui ont tous connu un temps d'exil, un temps de fuite, un temps de refuge ailleurs pour échapper à ceux qui voulaient, aux circonstances ou au pouvoir qui voulait leur mort. Et puis le Nouveau Testament poursuit cette histoire, en fait. Dès la toute première génération des disciples, des chrétiens, il y a Étienne qui est persécuté, qui est lapidé, et nous dit le livre des Actes. Alors à ce moment-là, les chrétiens qui sont à Jérusalem fuient Jérusalem pour échapper à la persécution et vont se disperser, d'abord en Judée et en Samarie, et puis ensuite en Phénicie, à Chypre, en Syrie. L'apôtre Paul lui-même, qui va voyager, va être à plusieurs reprises obligé de s'enfuir de villes où on menace de le lapider ou de le mettre en prison. Et puis la fin du Nouveau Testament, les dernières lettres, les lettres de Pierre par exemple, et puis l'Apocalypse, sont des témoins de la persécution romaine qui commence à s'abattre sur les chrétiens. Voilà, toute l'histoire du Nouveau Testament se déroule aussi à travers des hommes et des femmes qui fuient pour pouvoir vivre librement, pleinement, ce qu'ils ont envie de vivre. C'est pas du tout anodin que la Bible nous raconte ainsi ces histoires de toutes ces générations qui ont vécu la même chose que ce que aujourd'hui des hommes et des femmes vivent. C'est pas anodin parce que ça nous raconte l'histoire d'un Dieu qui se lie à ces personnes qui sont sur des chemins d'exil, un Dieu qui chemine avec elles, un Dieu qui les soutient, qui les accompagne, un Dieu qui est présent, avec. Et plus encore, non seulement Dieu est présent avec eux, mais Dieu se fait l'un d'entre eux. Quand Dieu s'incarne, c'est-à-dire quand en Jésus Dieu vient parmi nous, eh bien, il y a ce passage que nous venons d'entendre. Juste après que les mages soient venus adorer l'enfant Jésus, eh bien, Joseph, Marie et l'enfant Jésus sont obligés de partir en exil. Et c'est un texte qui résonne directement avec l'actualité de notre monde. Il est question d'exil, avec cette fuite que Joseph, sa femme et son fils sont obligés de faire parce que Hérode menace de tuer Jésus, de tuer leur enfant. Alors ils vont en Égypte, ils vont se réfugier au même endroit où Abraham a été autrefois, où Joseph a été autrefois. Ils fuient cette persécution d'un pouvoir totalitaire qui décide, dans sa folie, de massacrer tous les enfants de moins de 2 ans pour être sûr que Jésus ne va pas y échapper. Et on sait bien que ça arrive que des pouvoirs totalitaires deviennent complètement délirants et massacrent leur propre peuple, comme Pharaon, au temps où Moïse était enfant, qui lui aussi avait décidé de massacrer tous les premiers-nés des Hébreux. Et puis, il est question du retour tellement difficile, voire impossible, chez soi, puisque quand Joseph entend l'appel à revenir, il ne peut pas revenir à Bethléem, en Judée, il est obligé d'aller en Galilée, à Nazareth, parce que le roi qui a succédé à Hérode, c'est son fils Archélaos, est tout aussi cruel et tyrannique que son père. Oui, au cœur de notre foi se tient l'incarnation, c'est-à-dire Dieu qui nous rejoint dans notre humanité. Et cette humanité, elle n'est pas que un joli petit bébé joufflu dans une crèche, avec des bergers tout sympathiques qui viennent le voir et des mages qui viennent de si loin avec plein de cadeaux. Elle est aussi cette incarnation dans une famille sur les routes de l'exil, Jésus lui-même. Ce n'est pas rien dans notre foi que d'entendre cela. Ce n'est pas rien Parce que non seulement la Bible raconte toutes ces histoires d'exil, mais en plus, elle en fait le cœur de sa réflexion éthique, le cœur de ce qu'elle nous appelle à vivre. La question de l'accueil et de l'hospitalité est présente pleinement dans la Bible. Vous rappeler simplement trois passages. Le premier, c'est dans l'Ancien Testament, un passage du livre du Lévitique. Vous savez que le Lévitique, vous ne le lisez pas tous les jours, enfin je parle à votre place, mais sans doute, parce que c'est un livre un peu compliqué. C'est des règles et des règles et des règles et des lois. Hein. Mais il y a quelques pépites au milieu, et il y a en particulier, au chapitre 19, ce verset. « Vous traiterez l'immigré qui séjourne avec vous comme un autochtone d'entre vous. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été immigré en Égypte. Je suis le Seigneur, ton Dieu. » C'est-à-dire le souvenir des ancêtres qui ont vécu sur les routes de l'exil appelle les croyants à leur tour, se mettre en position d'accueillir ceux qui sont en position d'exil. Le texte est limpide, Lévitique 19, et on retrouve écho tout au long de l'Ancien Testament. Deuxième passage, c'est dans l'Évangile de Matthieu. Vous connaissez sans doute ce récit. C'est une parabole que raconte Jésus au chapitre 25. Il met en scène une image du jugement, c'est-à-dire du moment où Dieu viendra dire ce qui est vrai. Et il dit voilà, il dira « Vous êtes heureux, ceux qui, quand j'ai eu faim, m'ont donné à boire, à manger, quand j'ai eu soif, m'ont donné à boire, quand j'étais nu, m'ont vêtu, quand j'étais en prison, sont venus me visiter, quand j'étais étranger, m'ont accueilli. » Alors les disciples disent « Mais quand est-ce qu'on t'a vu affamé, assoiffé, en prison, étranger ?» Et alors Jésus leur répond « Eh bien, chaque fois que vous l'avez fait un petit parmi vous, c'est à moi-même que vous l'avez fait. » C'est encore une parabole assez limpide pour dire que quand nous avons un acte de solidarité avec quelqu'un qui est dans la souffrance, eh bien c'est comme si c'est le Christ lui-même que nous aidions. Troisième passage que je vous lis parce que je trouve délicieux la manière dont c'est dit. C'est plus tard dans le Nouveau Testament, c'est la lettre aux Hébreux, au chapitre 13. La lettre aux Hébreux qui dit « N'oubliez pas de pratiquer l'hospitalité. En la pratiquant, certains ont accueilli des anges sans le savoir. » Je trouve superbe ce texte. En accueillant des personnes qui avaient besoin d'être accueillies, certains ont accueilli des anges, mais sans le savoir. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas accueilli des personnes parce que c'était des anges. Elles ont accueilli des personnes et c'était des anges. Alors je vous rappelle juste que des anges, ce n'est pas des petits personnages avec des ailes qu'on accroche dans le sapin de Noël. Un ange, c'est un messager de Dieu. Angelos, en grec, c'est le porteur de message. C'est le message. D'ailleurs, quand on dit évangile, il y a le mot ange dedans, dans évangile. Evangelos, en grec, ça veut dire joyeux message, bonne nouvelle. Ange et évangile, c'est la même racine, c'est le message de Dieu, c'est l'évangile. Pour le dire autrement, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit qu'en donnant l'hospitalité, eh bien, c'est l'évangile que nous accueillons, parfois sans le savoir, mais c'est l'évangile qui est accueilli. Alors voilà, je sens que certains parmi vous se disent peut-être à ce stade-là, bon, il est en train de nous faire la morale quand même, le monde est un peu plus compliqué que ça. Alors, c'est très pertinent comme remarque de votre part. La morale, est-ce que c'est une leçon de morale? Alors là, je dirais non. Pour moi, la Bible n'est pas une leçon de morale. Une leçon de morale, ça voudrait dire quelque chose qui dit, voilà, tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça. Ça voudrait dire des recettes ou des indications. Non, la Bible, c'est une histoire vivante. C'est une histoire d'hommes et de femmes qui cheminent, qui vivent, qui souffrent, qui espèrent, qui sont sur les routes de l'exil, ou tantôt qui sont en position d'accueillir, qui parfois y arrivent, qui parfois y arrivent pas. C'est une dynamique de vie que l'Écriture. Alors tous ces textes qui nous invitent à appliquer l'hospitalité, ce n'est pas pour nous faire la morale, c'est pour nous inviter simplement à nous mettre dans cette même dynamique de vie, à continuer à vivre l'Évangile en quelque sorte, à poursuivre l'accueil tel que ces générations avant nous l'ont fait, tel que le Christ lui-même en a bénéficié, tel que toute la Bible nous appelle à le vivre, mais tout simplement comme une dynamique de vie. C'est ça la grâce de Dieu en fait. C'est pas une loi qui nous est donnée. C'est un appel, un souffle à vivre et l'accueil de l'autre, c'est une expression de ce souffle de vie, de cette dynamique de vie. Alors après, que le monde soit complexe, ça c'est sûr. Que ce soit bien compliqué, toutes ces histoires de savoir que faire devant toutes les souffrances de notre monde, qu'on ait des tas et des tas de raisons pour se dire il faut d'abord prendre le temps d'analyser, il faut le temps de peser le pour et le contre, d'évaluer les coûts, de voir qu'est-ce que ça peut nous bousculer, voilà, c'est compliqué tout ça. En fait, c'est peut-être nous qui sommes compliqués aussi. Hein. Peut-être qu'on se donne aussi bien des raisons pour échapper à ce que la Bible nous dit très clairement, en fait, que être en exil sur cette terre, c'est une condition humaine à laquelle nous ne sommes pas insensibles dans notre foi et à laquelle nous sommes appelés. La Bible le dit tellement clairement que c'est peut-être notre propre complexité qui essaye de dire c'est trop compliqué. Voilà, nous sommes devant un choix, en fait. Est-ce que nous suivons l'appel du Christ ou pas ? Alors, qui dit choix dit forcément discernement. Comment on choisit ? Comment on fait ? Comment on le vit concrètement ? Alors là, je voudrais revenir à l'évangile que nous avons lu. Parce que ce récit de Joseph avec Marie et Jésus qui partent en exil, eh bien, je trouve qu'il nous donne quatre dimensions, je vais passer rapidement, hein, mais quatre dimensions qui sont tout à fait essentielles, me semble-t-il, pour nous aider à discerner. C'est-à-dire se dire, voilà, nous avons l'appel biblique, et puis nous avons notre propre réalité complexe, comment on fait ? Quatre dimensions. La première dimension, c'est que la réalité, elle est ce qu'elle est. Elle n'est pas ce que nous aimerions qu'elle soit. Ce n'est pas Joseph, Marie ou Jésus qui ont décidé que Hérode allait les persécuter. C'est comme ça. Ils ne peuvent pas faire autrement que, dans cette situation-là, se dire qu'est-ce qu'on fait. Ça, c'est une première dimension extrêmement importante du discernement, c'est de prendre la réalité telle qu'elle est. La recevoir, et c'est dans cette réalité qu'on est appelé à décider ce que l'on peut faire ou pas faire. On ne peut pas changer, a priori, la réalité avant d'être soi-même un facteur de changement dedans. Premier élément, donc, prendre la réalité telle qu'elle est. Deuxième élément qui est donné dans ce texte, c'est que à plusieurs reprises intervient un ange. Encore une fois, pas le bonhomme avec les ailes, mais la parole de Dieu, en fait. L'évangile qui est là, personnifié par un ange à deux reprises. Une première fois pour dire à Joseph, fuis en Égypte. Une deuxième fois pour lui dire, tu peux revenir parce que Hérode est mort. Et puis peut-être une troisième fois, même si dans le texte il n'est pas question d'un ange, mais on nous dit que Joseph est divinement averti dans un rêve, pour dire, voilà, tu ne peux pas retourner à Bethléem, alors va en Galilée. Voilà, il y a l'intervention d'un message de Dieu, on pourrait dire. Et c'est la deuxième dimension extrêmement importante du discernement, c'est se dire, qu'est-ce que Dieu nous dit ? À quoi Dieu nous appelle ? Comment sommes-nous en disponibilité pour l'entendre ? La prière, le silence, l'écoute, c'est quelque chose de très très important dans le discernement. Troisième élément qui est important dans ce texte, vous l'avez sans doute entendu, c'est qu'à trois reprises, il est question du fait que ce qui arrive est l'accomplissement de l'Écriture. Trois fois, Matthieu dit, ainsi s'accomplit ce que Osée avait dit. Osée, c'était quelqu'un qui évoquait la période de l'Exode dans son passage. Ainsi s'accomplit ce que Jérémie avait dit. Jérémie, c'est quelqu'un qui parlait au moment de l'exil. Ainsi s'accomplit ce que les prophètes disaient. Alors là, on ne sait pas à quel passage précis Matthieu fait allusion. Il dit les prophètes. Alors ça ne veut pas dire que c'était écrit d'avance. Ça ne veut pas dire que ce qui se déroule n'est que l'application de quelque chose de complètement décidé. Ça veut dire, plus fortement, que ce que l'on vit, c'est l'écho de ce qui a déjà été vécu et partagé avant. Que ce qui est vécu, c'est encore l'histoire biblique. C'est encore l'histoire de Dieu avec nous. Troisième élément du discernement, c'est comment, dans le réel de ce que nous vivons, dans ce à quoi Dieu nous appelle, nous pouvons, en lisant la Bible, se dire, ben voilà, c'est la continuation de l'Évangile qui nous est donnée dans ce choix à faire. Et puis, quatrième dimension du discernement, c'est que ça met en mouvement. Vous avez peut-être entendu dans la lecture Plusieurs fois, il est dit « debout ». C'est cet appel au mouvement. Ce n'est pas de dire à Joseph « écoute, c'est tellement compliqué le monde, replie-toi sur toi-même ». C'est plutôt un mouvement. Il doit partir, il doit revenir, il doit aller ailleurs que là où il devait vivre. C'est une dynamique. Et c'est une dynamique de vie parce que quand il va aller en Galilée, parce que les circonstances lui obligent, la Galilée, c'est au contraire de la Judée c'est autour de Jérusalem, c'est le lieu saint de la foi de Joseph. La Galilée, c'est au nord, c'est un endroit où il y a des bons croyants et il y a en même temps des tas de populations mêlées, des gens qui pensent autrement. C'est déjà les nations, c'est déjà un moment où l'évangile devient universel. Et c'est là que la mission de Jésus va commencer. Donc la dynamique dans laquelle Joseph est entraîné, c'est ce qui permet à l'évangile de se répandre pour tous. Dynamique de vie, quatrième élément du discernement. Voilà, c'est tout ça à la fois, le discernement. Analyser le réel de ce que nous vivons, entendre l'appel de Dieu, confronter dans la lecture biblique les choix possibles, et puis choisir la vie, choisir l'ouverture, choisir l'évangile. Alors tout à l'heure, dans quelques minutes, nous allons entendre quelques témoignages de personnes qui ont fait dans leur discernement et leur choix de vie un engagement à accueillir pour un temps quelques personnes qui sont ici en France, mais qui sont dans un parcours d'exilés. Les témoignages que nous allons entendre ne sont pas des témoignages normatifs. Ce n'est pas quelque chose qui s'impose aux uns ou aux autres. Ce sont simplement des témoignages. Il y a d'autres parmi nous qui ont d'autres engagements. À la CIMAD, par exemple, qui est une autre manière d'être témoin et d'aider. Il y en a d'autres encore qui ont d'autres engagements et dans d'autres domaines, et sans doute tout aussi importants. Il n'y en a aucun qui est normatif. Ce sont simplement des témoignages. Mais peut-être que ce sont des échos qui, pour l'un ou l'autre d'entre nous, aident au discernement sur cette question fondamentale, qu'est-ce que aujourd'hui, moi, je peux faire dans ce monde pour telle ou telle personne en besoin d'aide, de présence ou d'accueil. Alors voilà, Noël, l'Avent c'est fini, Noël c'est fini, l'Épiphanie c'est fini, on pourrait dire la fête est finie. Mais en même temps, nous confessons qu'à Noël, c'est la fête qui commence. Ce n'est pas la fête qui finit. C'est Jésus qui vient, qui traverse nos existences, notre monde, qui ouvre le temps de la fête. En fait, la fête n'est pas finie. Elle ne fait que commencer. Mais pour qu'elle se poursuive, eh bien, c'est à notre tour. C'est au tour de notre génération, de chacune de nos vies. Oui, la fête n'est pas finie. Elle ne fait que commencer. Et s'il nous appartenait de la prolonger. Amen. Mmh.